Parmi toutes les constructions humaines extraordinaires que les touristes aiment visiter chaque année, il en est une particulière parce qu'elle dépasse probablement l'ampleur de toutes les autres. C'est la Grande Muraille de Chine, 6700 km de longueur. En fait, les alentours de cette muraille, c'est un cimetière, le plus grand cimetière du monde, parce qu'on ne compte pas le nombre de ceux qui sont morts dans la construction de ce mur, de ceux qui ont été enterrés aux alentours ou à l'intérieur même de cette muraille de Chine. Elle a été construite pour repousser l'invasion des Mongols qui venaient du nord, 6700 km de long. Un autre mur, le mur d'Adrien, par exemple, en Grande-Bretagne, beaucoup plus court, 120 km, était destiné à fermer, à barrer la route des Écossais que les Romains n'avaient pas pu vaincre non plus. Une muraille pour se protéger de cette invasion-là. Plus récemment, le mur de Berlin, 43 km, dans une zone urbaine, pour séparer Berlin-Est de Berlin-Ouest et ne pas permettre le passage d'un côté vers l'autre. Toutes ces murailles qui ont été construites par les hommes étaient destinées à se protéger. Et les murailles de Jéricho étaient aussi construites pour se protéger. La Bible nous dit à plusieurs reprises que ces murailles étaient extraordinairement hautes. Et pour nous faire comprendre à quel point elles étaient imposantes, le texte nous dit qu'elles montaient jusqu'aux cieux. Et je peux le comprendre parce que si Jéricho abritait véritablement ces géants dont avaient parlé les espions qui étaient partis en reconnaissance, il fallait que la ville soit à la mesure des géants et que les murailles de Jéricho soient aussi en proportion de la taille de ces gens et de ce qu'ils voulaient comme protection. Des murailles extraordinaires. Sans aucun doute, non seulement les espions, mais le peuple d'Israël entier a été impressionné en voyant les murailles qui entouraient cette ville et qui la rendaient imprenable. C'est-à-dire que si on voulait prendre Jéricho, il n'y avait pas 36 solutions. Il fallait que Dieu intervienne. C'était en réalité ce qui bloquait leur entrée dans la terre promise. C'était la dernière chose qui barrait l'entrée de Canaan. Et je me pose tout de suite la question, qu'y a-t-il dans notre existence qui empêche notre entrée dans le royaume de Dieu? Y a-t-il dans notre vie des forteresses qui n'ont pas encore été vaincues? Y a-t-il quelque chose qui ternit notre espérance de la vie éternelle? Y a-t-il encore des batailles à mener pour que la voie soit ouverte pour recevoir le salut en Jésus-Christ, la promesse qu'il nous a faite, qui est la vie éternelle? En préparation pour cette fameuse bataille de Jéricho, Dieu a donné un certain nombre d'instructions à son peuple pour se préparer à cette bataille. Il y a plusieurs choses qui sont nécessaires pour que notre vie chrétienne soit une vie victorieuse. Il y a plusieurs choses à faire pour que nos batailles soient des victoires. Et nous pourrons appliquer dans le domaine de notre vie spirituelle ce que Dieu propose à son peuple, ici, devant les murs de Jéricho. Dans ce livre de Josué, plusieurs événements clés présente l'action de Josué et du peuple de Dieu juste avant l'entrée dans la terre promise. Et nécessairement, en pensant à Josué comme étant celui qui porte le même nom que Jésus, nous réfléchissons aux événements qui vont précéder l'entrée du peuple de Dieu dans la terre promise, dans la vie éternelle au moment où Jésus revient. C'est la raison pour laquelle Josué et Jésus, finalement, se ressemblent beaucoup dans leur tâche, dans leur ministère auprès du peuple de Dieu. Et les parallèles entre les activités de Josué pour le peuple de Dieu et le ministère de Jésus pour son peuple se ressemblent énormément. Dans le livre de Josué, au chapitre 5, se trouvent les indications que Dieu va donner à son peuple pour qu'il se prépare à cette bataille de Jéricho. La première préparation à accomplir pour cette bataille de Jéricho se trouve rapportée dans Josué, chapitre 5, verset 2, par exemple. Josué, chapitre 5, il est dit ceci, verset 2. « En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, « Fais-toi des couteaux de pierre et circoncis encore une fois les enfants d'Israël. » En réalité, tous ceux qui sont sortis d'Égypte au moment de l'Exode ont été circoncis, signe de l'alliance avec Dieu. Mais vous vous souvenez, quelques semaines seulement après qu'ils soient sortis d'Égypte, ils étaient à Kadesh Barnéa. Là, ils ont envoyé les espions qui ont rapporté leur rapport en disant « C'est impossible, nous ne pourrons jamais prendre cette terre promise. » Ils ont même souhaité retourner en Égypte. Et ils étaient prêts à choisir un nouveau chef pour repartir en Égypte. Seuls Josué et Caleb, vous en souvenez, ont apporté le rapport de la foi en disant « C'est Dieu qui va nous donner cette terre promise. » Mais ils n'ont pas voulu écouter. C'est un moment de grande rébellion contre le plan de Dieu. À partir de ce moment-là, la circoncision n'a plus été pratiquée pendant les 40 ans où le peuple a tourné dans le désert. La Pâque non plus n'a plus été pratiquée pendant les 40 ans où ils ont voyagé dans le désert. C'était un signe du mécontentement de Dieu, de la désapprobation de Dieu face à cette révolte contre son plan. Il faudra attendre la fin des 40 ans, le moment où ils seront de nouveau prêts à entrer, cette fois, dans la terre promise, pour que et la circoncision et la Pâque soient pratiquées à nouveau. Autrement dit, comme Dieu l'avait dit, il faudra attendre la génération suivante. Tous ceux qui avaient 20 ans et plus, qui sont sortis de l'Égypte, sont tous morts dans le désert. Ce sont leurs enfants qui sont maintenant au pied des murailles de Jéricho. Alors Dieu dit à Josué, « Pratique maintenant la circoncision une autre fois. » Mais qu'est-ce que la circoncision ? C'est ce signe que Dieu avait donné à Abraham comme signe d'alliance. Et il avait invité Abraham à pratiquer ce signe et qu'il soit pratiqué de façon continue dans le peuple dont il allait être le père. Ce signe nous paraît bizarre aujourd'hui, un peu étrange. Cependant, réfléchissez un instant. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 1, il nous est dit que Dieu créa l'homme à son image, à sa ressemblance. Ainsi, Adam et Ève ont été créés purs, sans péché, selon le plan de Dieu. Mais le péché est intervenu. Adam et Ève ont fait un choix qui les a liés à l'ennemi. Ils ont fait une sorte d'alliance avec l'ennemi, accepté sa suggestion. Vous serez semblables à Dieu. Et ils ont accepté ça. Le péché est entré dans le monde. Curieusement, quelques chapitres plus loin, dans Genèse au chapitre 5, il est question d'Adam. Au verset 1er, il est dit « Adam engendra un fils à sa ressemblance selon son image. » Et nous comprenons par là que les enfants d'Adam ont été, eux, héritiers de cette nature de péché, et ainsi de suite, jusqu'à nous. Ainsi, lorsque Dieu propose la circoncision à Abraham, il propose comme un antidote à cette nature de péché héritée de nos ancêtres. Un signe finalement sur le sexe pour faire comprendre que ceux qui allaient être engendrés par ceux qui avaient accepté l'alliance entraient dans une nouvelle famille et qu'ils bénéficiaient eux aussi de l'alliance. Engendré dans l'alliance. Si l'on veut, c'est la forme de l'Ancien Testament de ce que nous avons dans le Nouveau sous le nom de la nouvelle naissance. C'est une naissance dans une autre famille, dans la famille de ceux qui ont fait alliance avec Dieu. D'ailleurs, le peuple de Dieu qui va naître dans la descendance d'Abraham va être considéré par Dieu comme un peuple particulier, malgré tout ce qu'il a pu faire. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 19, au verset 5, il est dit « Si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi, et vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. » Il y a cette notion d'appartenance l'un à l'autre à cause de l'alliance. Et Dieu va permettre que ceux qui naissent dans l'alliance naissent au bénéfice de l'alliance. Ainsi, la première chose que Dieu demande au peuple avant d'affronter Jéricho, c'est de sceller à nouveau l'alliance en acceptant le signe de la circoncision. Rentrer dans l'alliance de Dieu. C'est important de faire ce que l'on sait devoir faire. Pensez un instant à ce qui est arrivé à Moïse juste après qu'il rencontre Dieu dans le buisson ardent. Vous vous en souvenez, Moïse avec ses moutons rencontre tout d'un coup un buisson ardent qui ne se consume pas. Dieu lui parle dans ce buisson et l'invite à remplir le ministère auquel il l'a appelé, aller chercher son peuple en Égypte. Mais juste après, le texte nous dit que Dieu a attaqué Moïse, prêt à le faire mourir. Il avait négligé de faire ce qu'il savait qu'il aurait dû faire, circoncire ses enfants. C'est dire à quel point Dieu prend au sérieux l'alliance, le signe de l'alliance et ce qu'il nous demande de faire. Autrement dit, dans un premier temps, comme préparation à cette bataille, à cette victoire à recevoir de la part de Dieu, Dieu demande que nous fassions ce que nous savons qu'il nous a demandé de faire. Que nous rentrions dans son alliance, que nous en acceptions les signes contemporains. Et nous pouvons nous poser la question de savoir est-ce qu'il y a dans notre existence des choses que Dieu nous a révélées, qu'il attend de nous et que nous n'avons toujours pas mises en place, que nous n'avons toujours pas faites, que nous avons retardées, que nous avons laissées de côté pour de meilleurs jours. C'est la première condition que Dieu avait donnée. Maintenant, déjà dans l'Ancien Testament, on parle de la circoncision du cœur. Ce n'était pas simplement sur la chair que ce signe devait être placé, il avait un sens lorsqu'il correspondait à ce qui se passe dans le cœur de chacun. Dans le livre du Deutéronome, au chapitre 10 par exemple, je vous propose de lire ce texte avec moi. Deutéronome, chapitre 10, versets 15 et 16. Il est écrit ceci. Et c'est à tes pères seulement que l'Éternel s'est attaché pour les aimer. Et après eux, c'est leur postérité, c'est vous qu'il a choisi. D'entre tous les peuples, comme vous le voyez aujourd'hui, vous circoncirez donc vos cœurs et vous ne raidirez pas votre cou. Dieu voulait que la circoncision du cœur s'exprime dans la fidélité dans l'alliance qu'il proposait. Déjà dans l'Ancien Testament, cette démarche intérieure de l'alliance avec Dieu avait une grande importance et nous propose, nous aussi aujourd'hui, de pratiquer, si l'on peut s'exprimer ainsi, la circoncision du cœur, c'est-à-dire d'enlever de notre vie, de notre cœur, tout ce qui gêne la victoire que Dieu veut remporter en nous, d'enlever de notre vie ce qui gêne l'accomplissement de l'alliance en nous, d'enlever de notre vie ce qui peut empêcher Dieu d'accomplir pour nous ce que nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes. Maintenant, il y a une deuxième chose que Dieu demande à son peuple avant d'affronter Jéricho. Nous le trouvons dans le livre de Josué au chapitre 5, dans les versets qui suivent ceux auxquels nous avons fait allusion tout à l'heure. Josué chapitre 5, verset 9. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, sur le soir, dans les plaines de Jéricho. » Ils n'avaient plus pratiqué la Pâque depuis, en fait, le moment où ils étaient sortis d'Égypte, à cause de leur rébellion. Maintenant, avant de rentrer dans cette dernière bataille, avant l'ouverture de la terre promise, il leur propose de célébrer la Pâque. Ils ont pratiqué la circoncision, ils ont reçu l'alliance. Maintenant, ils reçoivent les signes du pardon de Dieu. La Pâque, c'est se mettre sous le signe du sang. Vous vous souvenez comment la première Pâque avait été clairement expliquée dans les livres de l'Exode au chapitre 12, toutes les indications relatives à cette fête sont données. Ils devaient prendre le sang, le placer sur la porte, les montants de la porte. Et tous ceux qui étaient dans la maison, marqués du sang, étaient protégés, parce qu'ils avaient exercé leur foi vis-à-vis de ce sang qui représentait le sacrifice de Jésus. Dieu maintenant leur propose de se placer à nouveau sous le signe du sang et de recevoir le pardon. Dans la circoncision, ils avaient marqué leur obéissance à ce que Dieu avait demandé. Dans la Pâque, ils reçoivent la réponse à leur foi dans le sacrifice de Jésus, le pardon. D'ailleurs, lorsque Jésus a vécu cette dernière Pâque avec ses disciples, dans ce que nous appelons maintenant la Sainte Cène, leur a dit clairement, c'est dans l'évangile de Matthieu au chapitre 26, « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. » Le deuxième élément de préparation, c'est de vivre la Pâque, qu'ils n'avaient pas vécue depuis longtemps, de se placer de nouveau sous le signe du sang et de recevoir le pardon de Dieu. Les versets suivants sont intéressants. Dans Josué chapitre 5, il est dit au verset 11, « Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du grain rôti. Ils en mangèrent ce même jour. La manne cessa le lendemain de la Pâque et ils mangèrent du blé du pays. » Les Hébreux sont là, campés dans la plaine de Jéricho. Les gens de l'endroit ont tellement peur. Ils ont entendu des rapports extraordinaires de ce que Dieu avait fait pour le peuple d'Israël. Ils se sont tous enfermés dans leur ville. Le début du chapitre 6 nous le montre, ils sont tous dans les villes, calfeutrés, fermés, dans la peur de ce qui va arriver. Nous sommes à l'époque de la moisson, nous sommes au printemps. Les champs sont là, ils sont ouverts pour les Hébreux qui peuvent les moissonner à leur gré, alors que tous les autres sont enfermés dans la crainte dans leur ville. Les champs sont à leur disposition. Ils vont donc maintenant travailler, s'engager, faire face à leurs propres besoins, et la manne va s'arrêter. Un appel de Dieu à s'engager. Il n'y a pas d'assisté dans l'Église. Il n'y a pas de membre honorifique dans l'Église. Il n'y a que des disciples dans l'Église, des gens actifs, des gens responsables. Et cet engagement à l'engagement personnel est encore plus fort dans ce qui va se passer juste après. Cet événement que vous connaissez bien est rapporté dans Josué chapitre 5 à partir du verset 13, où il nous est dit que Josué va à l'écart. Il veut se préparer. Il va à l'écart pour prier. Tout d'un coup, il est surpris par la présence d'un être qu'il ne connaît pas et qui se présente à lui prêt au combat, l'épée en main. Il s'adresse à lui et lui dit « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ? De quel côté es-tu ?» Et ce personnage lui fait cette réponse qui est inscrite au verset 14 et qui est extraordinaire. Il lui dit « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Cette réponse de Jésus ici est extraordinaire parce que, en réalité, le chef de l'armée de l'Éternel ici, c'est Josué. C'est ainsi qu'il se comprend, être le chef de l'armée de l'Éternel. Mais voilà que devant lui se trouve quelqu'un qui lui dit « Je suis le chef de l'armée de l'Éternel » et Josué comprend tout de suite qu'il a devant lui son chef à lui, le vrai chef de l'armée de l'Éternel, l'autre Josué. Et nous avons ici dans la Bible un événement extraordinaire où Josué rencontre Josué, où Yeshua rencontre Yeshua. Vous savez, nous avons aujourd'hui dans notre monde des compagnies qui s'appellent Dupont et Dupont Limité. Eh bien ici, nous avons Josué et Josué illimité. En fait, Jésus vient pour donner ses instructions à son serviteur Josué pour la bataille qui va arriver. Et on a ici dans ce texte la rencontre de Jésus avec celui qui le représente et qui porte le même nom. Une rencontre extraordinaire. Je donnerais cher pour entendre la conversation qu'ils ont eue en préparation pour la bataille de Jéricho. Ici, nous retrouvons quelque chose qui s'est passé en réalité au début de l'Exode. Beaucoup d'événements qui se passent à la fin de l'Exode ont eu lieu aussi au début. Moïse a rencontré ce même Jésus dans le buisson ardent pour avoir les instructions dont il avait besoin. Et il lui a dit la même chose. Il lui a dit « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. » Jésus, dans cette rencontre avec Josué, va lui dire la même chose, faisant écho aux instructions qui avaient été données à Moïse au début de l'Exode. Maintenant, il est là pour recevoir les instructions pour terminer ce voyage par une dernière victoire. Curieusement, Jésus est là, l'épée à la main. Il n'y a que trois événements dans les Écritures qui nous rapportent la présence de l'ange de l'Éternel, l'épée à la main, prêt au combat finalement. Un événement que vous connaissez bien, c'est lorsque Balaam, monté sur son ânesse, rencontre cet ange, mais Balaam ne le voit pas, seul l'âne le voit. Pas très flatteur pour Balaam, mais il est aussi devant l'âne, l'épée à la main, prêt à exercer, autrement dit, un jugement de sa part. Et puis un autre événement, c'est par rapport au recensement que David avait fait, un recensement pour mesurer sa propre puissance, un recensement que Dieu avait condamné, et l'ange, l'épée, parcourait la ville et exerçait le jugement de Dieu. Ici, Jésus se présente à Josué, l'épée à la main, parce qu'il va exercer un jugement de la part de Dieu sur la ville de Jéricho. Cette condition est importante aussi pour se préparer à la victoire. Nous devons recevoir les instructions de Dieu lui-même. La bonne volonté ne suffit pas. C'est le plan de Dieu qu'il faut suivre, pas le nôtre. Ainsi, nous avons besoin de connaître quel est le plan de Dieu, que ce soit dans notre vie ou que ce soit pour l'Église, de sorte que les batailles à livrer soient à l'avance des victoires assurées. Maintenant, nous avons dans le chapitre 6 la préparation du peuple pour la bataille à livrer. Une drôle de bataille. Regardez dans Josué chapitre 6, le verset 3 et 4 par exemple. Josué donne les instructions de la part de l'Éternel. Et il est dit, « Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. » Une drôle de guerre, finalement. Une drôle de guerre, mais il est impossible de lire ce chapitre-là sans avoir des versets du livre de l'Apocalypse qui reviennent à notre mémoire, parce que les parallèles sont nombreux. Vous vous souvenez que le peuple de Dieu va tourner pendant 1 semaine autour de Jéricho. Ils vont faire chaque jour le tour de la ville 1 fois. Et vous vous souvenez que l'instruction avait été donnée, pas un mot, pas un bruit. 1 semaine de silence pour annoncer finalement le jugement de Dieu. Mais lorsque vous ouvrez le livre de l'Apocalypse au chapitre 8, il est question précisément des 7 trompettes. Et ce chapitre 8, qui introduit le message des 7 trompettes de l'Apocalypse, commence par une demi-heure de silence. Une demi-heure prophétique de silence, c'est 1 semaine. Maintenant, il y a les 7 trompettes, bien entendu. Les 7 trompettes portées par les sacrificateurs qui vont faire le tour de la ville. Et lorsque vous lisez les Écritures, vous vous rendez compte que les trompettes, c'est un symbole, un signe utilisé pour annoncer l'application du jugement de Dieu. Dans Ésaïe, au chapitre 58, Dieu invite le prophète à parler comme une trompette. « Parle comme une trompette et annonce à mon peuple, dit-il, ses iniquités et son péché. » Un peu plus loin dans le livre de l'Apocalypse, lorsque vous arrivez au chapitre 11 et qu'il est question de la dernière trompette, il est dit au verset 15, « Alors le royaume est remis à notre Seigneur et à son Christ, après la dernière trompette. » Effectivement, lorsque la dernière trompette va sonner à Jéricho, c'est la défaite de Jéricho, c'est la victoire et c'est la Canaan qui s'ouvre pour le peuple de Dieu. Le royaume est remis à son Seigneur et à son Christ. Finalement, dans l'Apocalypse au chapitre 11 et au verset 19, se trouve une indication intéressante. Apocalypse, chapitre 11, au verset 19, qui est en réalité le dernier verset du chapitre, après la 7e trompette, il nous est dit « Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple, et il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une forte grêle. » Souvenez-vous, cette drôle de guerre se fait avec les sacrificateurs qui jouent de la trompette, 7. 12 qui portent l'arche, les guerriers et le peuple. L'arche de l'Alliance va tourner chaque jour autour de la ville de Jéricho. Et nous retrouvons aussi, dans le contexte des trompettes de l'Apocalypse, l'arche dans le ciel. L'arche de l'Alliance, c'est un symbole très significatif pour le peuple de Dieu. Cette Arche de l'Alliance contient le texte des 10 commandements, qui est le texte de l'Alliance que Dieu a proposé à son peuple. C'est un texte important, c'est une loi éternelle de Dieu qui ne change pas. Elle était dans l'Arche. Les autres lois données à Moïse étaient à côté de l'Arche. Mais dans l'Arche se trouve le texte des 10 commandements écrits du doigt de Dieu sur la pierre. Ces 10 paroles que nous appelons les 10 commandements et auxquels il est fait référence dans l'Ancien Testament de cette façon-là, ne sont pas, s'il vous plaît, les 10 suggestions de Dieu. Ce ne sont pas des choses qui sont laissées à notre libre choix de savoir si ça nous convient ou pas. Les 10 représentent la loi de Dieu, cette loi que Dieu voudrait écrire dans notre cœur pour que la vie de cette loi devienne naturelle en chacun d'entre nous. Ainsi, les parallèles entre l'Apocalypse et cet événement de la vie de Josué, ces parallèles sont très nombreux. C'était une drôle de procession. Il y avait d'abord, selon les indications de Dieu, les soldats en armes. Derrière eux, les sacrificateurs avec les trompettes. Puis derrière eux, l'Arche de l'Alliance. Et derrière l'Arche, le peuple. J'imagine ces gens à Jéricho, perchés en haut du mur, qui observent chaque jour ce peuple qui, dans le silence, fait le tour de la ville. Ils se sont sans doute moqués au début, mais l'angoisse a dû les prendre en voyant ce cortège silencieux chaque jour. Et quelle surprise le septième jour, où après le premier tour, ils en ont fait un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, puis un cinquième, puis un sixième. Certains ont dû se dire, mais quand donc ça va-t-il arrêter? Au septième tour, les trompettes sonnent de toute leur force, et c'est à ce moment-là que le peuple crie. Et il suffit de crier, et il suffit de sonner de la trompette pour que les murs s'effondrent. Drôle de guerre. Ces murailles qui montaient jusqu'aux cieux, seul Dieu peut les mettre à terre. Au septième tour, le peuple crie. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce que le peuple a crié? Qu'est-ce qu'ils ont crié? Est-ce qu'ils ont simplement crié de tout leur gosier les sons les plus incohérents qui pouvaient en sortir? Généralement, quand on va de la part de Dieu, et que l'on parle de la part de Dieu, on ne dit pas des choses incohérentes, on dit des choses claires, on dit des choses nettes, on dit des choses précises. Qu'ont-ils crié? Simplement du bruit? Non, je ne crois pas. Il y a un autre exemple dans les Écritures où le cri du peuple associé aux trompettes ont accordé la victoire au peuple de Dieu. C'est dans le livre des Chroniques, le deuxième livre au chapitre 13, où il y avait une guerre entre Israël et Juda. Juda a gagné grâce au cri du peuple et au son des trompettes. Dieu est intervenu. Mais je me dis, que crie le peuple? Alors je pense à ce passage de l'évangile de Matthieu au chapitre 21. Vous connaissez cet événement qui nous est rapporté et qui se situe peu de temps avant la mort de Jésus, où Jésus va rentrer dans Jérusalem, assis sur la monture royale. Et le peuple va crier. Il est dit au verset 9, l'évangile selon Matthieu, chapitre 21, verset 9, « Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Hosanna. Voilà ce qu'il criait. En fait, il citait là un texte du livre des psaumes, dans le psaume 118, le verset 25. Maintenant, la tradition nous rapporte quelque chose d'intéressant par rapport à la fête des tabernacles. La tradition rapporte que lorsque la fête des tabernacles avait lieu, les sacrificateurs faisaient une procession qui tournait autour de l'autel des sacrifices, une fois par jour, pendant les 6 premiers jours de la fête des tabernacles. Et arrivé au 7e jour, ils en faisaient 7 fois le tour. Et en tournant autour de l'autel des sacrifices, ils récitaient le psaume 118, verset 25, qui est justement cité par les Hébreux qui reçoivent Jésus à Jérusalem. « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Qu'est-ce que les gens ont crié à Jéricho? Je suggère qu'ils ont crié « Hosanna ». Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Souvenez-vous, la fête des tabernacles, c'est la septième fête parmi les sept fêtes que le peuple hébreu célèbre chaque année. Et cette fête annonce précisément la sortie du désert et l'entrée dans la terre promise. C'est précisément le contexte dans lequel nous sommes. Qu'est-ce que le peuple a crié ? Oh, je n'y étais pas, il n'y avait personne pour enregistrer. Permettez que je vous suggère qu'ils ont crié « Hosanna ». Que veut dire « Hosanna » ? « Hosanna », c'est la contraction d'une expression hébraïque qui veut dire « Sauve, nous t'en prions ». Et c'est exactement, je crois, l'état d'esprit dans lequel ils sont venus devant Jéricho, incapables de faire tomber ces murailles qui montent jusqu'au ciel. Seul Dieu pouvait sauver et délivrer. Il y a cependant un cri à la fin des temps qui fait écho à ce cri lancé par le peuple devant les murs de Jéricho. Nous le trouvons dans l'Apocalypse au chapitre 18. Dès le premier verset, il est écrit ceci. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repaire de tout esprit impur, un repaire de tout oiseau impur et odieux. Et un peu plus loin, au verset 4, « Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. » elle est tombée, Babylone la grande. Jéricho aussi est tombée. Et le message qui fait écho dans notre temps, c'est précisément que tout ce que représente Babylone, tout ce que représente Jéricho, cette apostasie par rapport à Dieu, c'est l'échec. La victoire, c'est en fait le plan que Dieu propose à son peuple et qui est un plan par la foi. Seule la foi de ce peuple a permis à Dieu de détruire ces murailles qui montaient jusqu'aux cieux. Aujourd'hui encore, ce message retentit. Elle est tombée. Elle est tombée parce que, en fait, elle a choisi le système diabolique pour s'en sortir. Elle ne sera pas vainqueur. Celui qui sera vainqueur, c'est celui qui se placera sous les ordres de Josué, de Yeshua. C'est celui qui aura accepté d'accomplir dans sa vie ce qu'il sait que Dieu a demandé de lui et qui rentrera dans son alliance. C'est celui qui aura reçu le signe du pardon en Jésus-Christ et qui se sera mis sous le signe du sang. Ce sera celui qui se sera engagé envers Dieu. Ce sera celui qui aura reçu les instructions, celles de Dieu, non pas les siennes, ni même de la tradition, soit elle-même chrétienne. Ce sera celui qui aura accepté que Jésus soit son chef dans sa vie quotidienne. D'ailleurs, l'évangile de Jean commence avec cette même idée, cette idée que nous pouvons devenir enfants de Dieu au sens complet du terme. Dans les premiers versets de l'évangile de Jean, c'est au verset 12, il est dit « À tous ceux qui l'ont reçu, c'est la lumière qu'est Jésus, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Et c'est ce que nous sommes invités à être par le pouvoir de sa grâce. Alors aujourd'hui, je me pose la question, lorsque Yeshua, lorsque le grand Josué va venir. Où va-t-il nous trouver? Avant la dernière bataille qui donnera accès à son peuple à la vie éternelle, où va-t-il nous trouver? Va-t-il nous trouver dans Jéricho, les bras croisés en haut des murs, à regarder avec moquerie et inquiétude le peuple de Dieu qui défile devant cette forteresse soi-disant imprenable? Ou bien nous trouvera-t-il dans le peuple, prêt à crier « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Où nous trouvera-t-il ?